Chapitre 41. De vieux amis et de nouvelles menaces. Quand il arriva devant la bénédiction de la reine, Rand s'adossa à la porte, haletant. Il avait couru sur toute la distance, sans se soucier qu'on voit son épée emballée dans du tissu rouge, et sans se demander si sa hâte pouvait inciter des gens à le prendre en chasse. De toute façon, même le Myrdraal le plus rapide n'aurait pas pu le rattraper. Lame Gwyn était assis sur un banc près de la porte, un chat au pelage tacheté dans les bras. Voyant que Rand avait couru, il se releva pour sonder la direction d'où il venait, mais sans cesser de gratouiller le matou derrière les oreilles. Ne remarquant rien d'inquiétant, il se rassit, prenant garde à ne pas déranger son petit compagnon.
Des idiots ont essayé de nous voler des chats, il y a un moment.
Il examina les phalanges de son poing droit, puis recommença à cajoler le félin.
C'est que ça se vend très cher, un chat, de nos jours.
Les deux espions qui arboraient du blanc étaient toujours de l'autre côté de la rue. L'un des deux avait un œil au beurre noir et une joue gonflée. Le regard haineux, il surveillait l'auberge en tapotant nerveusement la poignée de son épée.
« Où est Maître Gill ?»
demanda Rand.
« Dans la bibliothèque. »
Le chat recommençant à ronronner, Lame Gwyn eut un gentil sourire.
« Rien ne perturbe longtemps un matou, même quand un sale type essaie de le fourrer dans un sac. »
Rand entra et traversa la salle commune où étaient attablés les clients rouges habituels. Sirotant leur bière, il parlait du faux dragon et du comportement possible des capes blanches lorsqu'ils partiraient sous bonne garde pour le Nord. Le destin de Loghain n'intéressait personne, mais la fille héritière et le premier prince de l'épée seraient du voyage, et aucun des hommes présents n'aurait voulu qu'il leur arrive malheur. Dans la bibliothèque, Gil disputait une partie de jeu des pierres avec Loyal. Un chat grassouillet, assis sur la table, regardait les mains des deux hommes voler au-dessus du plateau de jeu en damier. Avec une délicatesse étonnante, si on considérait la taille de ses doigts, Logier plaça la pierre qu'il tenait sur une case. Perplexe, Maître Gil se détourna de la table, provisoirement sauvé par l'arrivée de Rand. Depuis le début, Loyal l'écrabouillait presque chaque fois.
« Je commençais à m'inquiéter, mon garçon. Des fois que tu as eu des ennuis avec ces traîtres de blanc ou avec le fichu mendiant. »
Rand en resta un instant bouche bée. Il avait oublié jusqu'à l'existence du démon en haillons.
Je l'ai vu, mais ça n'a aucune importance. En revanche, j'ai rencontré la reine et Elaïda. Là, c'est une autre paire de manches.
L'aubergiste ricana.
La reine, c'est ça. Il y a une heure, Gareth Bryne disputait dans la salle commune une partie de bras de fer contre le seigneur capitaine des Capes Blanches. « Mais sa majesté, c'est autre chose. »«
Par le sang et les cendres, tout le monde m'accuse de mentir aujourd'hui. »
Rand jeta sa cape sur le dossier d'une chaise et se laissa tomber sur une autre. Trop épuisé pour s'asseoir correctement, il resta en équilibre sur le bord du siège, s'essuyant le front avec un mouchoir.
« J'ai vu le mendiant. Il m'a repéré et j'ai pensé que... aucune importance. » J'ai escaladé un mur pour avoir une meilleure vue sur la place, afin de ne pas rater l'arrivée de Loghain au palais. Et je suis tombé de l'autre côté.
J'ai presque l'impression que tu ne racontes pas n'importe quoi,
dit Maître Gil.
Ta Vérenne,
souffla Loyal.
Je dis la vérité,
soupira Rand.
Tout ça est arrivé, hélas.
Au fil du récit de son protégé, le scepticisme de Maître Gil fondit comme neige au soleil. Se penchant de plus en plus en avant, il finit par être assis au bord de sa chaise, comme Rand. N'étaient les poils de ses oreilles qui frémissaient de temps en temps, Loyal affichait l'impassibilité d'une statue. Rand raconta tout, omettant seulement la phrase qu'Elaïda avait prononcée à sa seule intention et la remarque de Gawain sur sa ressemblance avec un aïel. Tout ce qui était lié à la Aes Sedai le révulsait, et les considérations du prince ne valaient pas la peine qu'on s'y arrête.
Je suis le fils de Tamaltor, même si je suis né hors de deux rivières. Oui, Tam est mon père, et le sang de deux rivières coule dans mes veines. »
Perdu dans ses pensées, le jeune berger s'était arrêté de parler, et ses deux amis le dévisageaient. Une seconde, il craignit d'en avoir trop dit sans le vouloir.
« Eh bien, »
commenta Maître Guil,
« plus question que tu attendes tes amis ici. Tu vas devoir quitter la ville dans les deux jours. Tu crois que Matt sera en état de repartir? Ou faut-il faire appel à Mère Grub ?»«
Deux jours? Pourquoi ça ?»«
Elaïda est la conseillère de Morgaz, la deuxième en influence après Gareth Bryne. Et encore, je me demande parfois si ce n'est pas du passé. Si elle charge les gardes de te retrouver, le général ne s'y opposera pas, sauf si ça les empêche d'accomplir leurs autres missions. D'expérience, je sais que ces hommes peuvent contrôler toutes les auberges de Kaemlyn en deux jours. Cela dit, si nous n'avons pas de chance, ils commenceront par la mienne. Supposons qu'ils commencent par le lion et la couronne. Ça nous laisse un petit répit, pas question de traîner.
Si je ne parviens pas à secouer Matt, nous ferons appel à Mère Grub. Il me reste un peu d'argent, ça suffira peut-être.
Je me chargerai de Mère Grub,
marmonna Guil.
Au point où j'en suis, je peux aussi bien vous prêter deux chevaux. Si vous marchez jusqu'à Tarvalon, il ne restera pas de semelle à vos bottes longtemps avant que vous arriviez.
Vous êtes un ami fidèle,
dit Rand.
Nous sommes une source perpétuelle d'ennui, et pourtant, vous ne nous lâchez pas. Un véritable ami.
Embarrassé, l'aubergiste haussa les épaules, se racla la gorge et détourna le regard. Sur le damier, hélas, dont la vision lui déplut au plus haut point. Une fois encore, Loyal était gagnant.
Tom est un très vieil ami. S'il a pris des risques pour vous, il fallait bien que je m'implique.
Rand, dit Loyal.
« Je veux vous accompagner. »
Nous en avons déjà parlé, non ?
Rand s'interrompit avant d'en dire trop. Maître Guil n'était pas au courant de tout.
« Tu sais qui nous poursuit, Matt et moi ?»«
Des suppôts des ténèbres, des Aes Sedai et je ne sais quoi d'autre. Le ténébreux en personne, qui peut le dire ? Mais tu vas à Tarvalon, où on trouve un bosquet très bien entretenu par les Aes Sedai. De plus, je ne voyage pas seulement pour voir des arbres. Tu es Taveren pour de bon, Rand. La trame se tisse autour de toi, et tu es au cœur de tout.
Cet homme sera au cœur de tout.
Mot pour mot, les propos de Laïda.
« Je ne suis au cœur de rien !»
explosa le jeune berger. Maître Guil sursauta, et Loyal lui-même manifesta une certaine surprise. Après s'être consulté du regard, l'aubergiste et l'ogier baissèrent la tête, perplexes. Rand inspira à fond et se força au calme. Pour une fois, il trouva le vide qui lui échappait si régulièrement ces derniers temps. Il n'était pas juste de se défouler sur ses amis.
Tu pourras nous accompagner, Loyal. J'ignore pourquoi tu y tiens tant, mais t'avoir à mes côtés sera un plaisir. Tu sais comment est Matt en ce moment.
Je sais. Ici, je ne peux toujours pas sortir sans me faire traiter de trolloc par une foule de fanatiques. Au moins, Matt se limite aux mots. Il n'essaie pas de me tuer.
Bien entendu, ce n'est pas son genre.
Il n'irait jamais jusque-là, n'est-ce pas ?
On frappa à la porte et Gilda, une des serveuses, passa sa tête dans la pièce.
« Maître Guil ! »
dit-elle.
« Venez vite ! Il y a des capes blanches dans la salle commune !»
L'aubergiste se leva si vivement que le pauvre chat en sauta de la table, le pelage hérissé, et sortit de la bibliothèque à toute vitesse.
« J'arrive !» « Dis-leur de m'attendre et ne t'approche plus de ces types, d'accord ? Tu m'as bien compris ?
Gilda acquiesça.
« Toi, loyal, il vaudrait mieux que tu restes ici. »
« Oui, je n'ai aucune envie de croiser de nouveau le chemin des fils de la lumière. »
Maître Gil regarda le damier sur la table.
« J'ai bien peur qu'il faille recommencer la partie de zéro. »«
Pourquoi ?»
demanda innocemment loyal. Il tendit un bras démesurément long et s'empara d'un livre sur une étagère.
« Nous reprendrons là où nous en sommes, et c'est à votre tour de jouer. »
« Il y a des journées comme ça, »
marmonna l'aubergiste en sortant. Rand le suivit à pas lents. Il n'avait aucune envie non plus de frayer avec les fils de la lumière. Cet homme sera au cœur de tout. Il s'arrêta sur le seuil de la salle commune, d'où il espérait pouvoir regarder sans être vu. Un silence de mort était tombé sur la pièce. Cinq capes blanches se tenaient au milieu, et tous les clients les ignoraient avec une admirable obstination. Un des fils portait sous son emblème solaire, du côté gauche de sa cape, un éclair d'argent de sous-officier. Près de la porte d'entrée, Lam Gwyn faisait mine de se nettoyer les ongles avec un énorme fendoir. Quatre autres gardes du corps de Maître Gil se tenaient dans la salle, s'efforçant de ne pas regarder les capes blanches, tout en ne les quittant pas du coin de l'œil. Contrairement à ses quatre compagnons, le sous-officier montrait des signes d'impatience, tapotant nerveusement sa paume avec un gantelet. Maître Gil se hâta de rejoindre les cinq intrus.
« Puisse la lumière vous éclairer, »
dit-il avec une révérence assez peu marquée, mais suffisamment quand même pour ne pas être insultante.
« Et veillez sur notre bonne reine Morgaz. Que puis-je pour... »
« Assez de bavardage !»
s'écria le sous-officier.
« J'ai déjà inspecté 20 auberges aujourd'hui. Chacune plus crasseuse que la précédente, et il m'en reste une vingtaine avant le coucher du soleil. Je cherche des suppôts des ténèbres, un garçon de Deux-Rivières et... »
Rouge comme une pivoine, Maître Gil explosa avant que l'homme ait terminé son laïus.
« Il n'y a pas de suppôts des ténèbres chez moi. Tous mes clients sont de fidèles sujets de la reine. »
« Oui, et nous savons où va la loyauté de Morgaz, avec sa sorcière de Tarvalon. »
Des grincements de pieds de chaise retentirent. Entendant prononcer le nom de leur reine avec tant de mépris, tous les clients s'étaient levés. Ils ne bougeaient pas, pour le moment, mais foudroyaient du regard les capes blanches. Dans son excitation, le sous-officier ne s'en aperçut pas, mais ses hommes parurent très mal à l'aise.
« Si tu coopères, ce sera plus facile pour toi, aubergiste !»
menaça le sous-officier.
« Par les temps qui courent, abriter des suppôts n'est pas bien vu du tout. Tu crois qu'une auberge marquée du croc du dragon attire beaucoup de clients ? En revanche, elle risque de prendre feu si on ne fait pas attention. »«
Sortez d'ici !»
grogna Maître Gil.
« Sinon, j'appellerai des gardes afin qu'ils transportent jusqu'à la décharge municipale ce qui restera de vos carcasses. »
Lam Gwyn dégaina son épée et ses quatre collègues l'imitèrent. Prudentes, les serveuses se dirigèrent à la sortie.
« Le croc du dragon !»
commença le sous-officier.
« Ne vous sauvera pas la peau !»
acheva Maître Gil.
« Je compte jusqu'à cinq. Un ?»
« As-tu perdu la tête, vermine ? Menacé des fils de la lumière ?»«
Vous n'avez aucun pouvoir, Kemlin. Deux. »«
Crois-tu que nous en resterons là ?»«
Trois. »«
Nous reviendrons !»
lança le sous-officier. Il fit demi-tour, désirant sortir dignement, mais ses hommes étaient déjà en route vers le salut. Pas à la course, afin de sauver la face, mais s'entraîner les pieds non plus. Lam Gwyn se campa devant la porte, épée au poing, mais son employeur lui fit signe de s'écarter. Dès que les fils furent sortis, Gil se laissa lourdement tomber sur une chaise. Se passant une main sur le front, il la regarda ensuite, surpris qu'elle ne soit pas poisseuse de sueur. Autour de lui, les clients se rasseyaient, très fiers de leur petite démonstration. Hilar, certains vinrent d'abord flanquer des tapes amicales sur l'épaule de l'aubergiste. Apercevant Rand, Gil se leva et alla le rejoindre.
Qui aurait cru que j'avais l'étoffe d'un héros ?
S'extasia-t-il.
Que la lumière brille sur moi.
Il s'ébroua et reprit son ton normal, ou presque.
Il va falloir vous cacher jusqu'à ce que je vous fasse quitter la ville.
Il poussa Rand dans le couloir.
Ce type reviendront, ou ils enverront des espions arborant du rouge pour l'occasion. Après mon petit numéro, ils ne chercheront pas à savoir si vous êtes là ou non. Ils feront comme si, j'en ai peur.
C'est absurde !
S'écria Rand. Obéissant au geste impétueux de Maître Gil, il baissa le ton.
Les capes blanches n'ont aucune raison de me poursuivre. Idem pour Matt.
J'ignore pourquoi, mon garçon, mais les fils vous traquent. C'est une certitude. Comment as-tu réussi ça? Te mettre à dos Elaïda et les fils de la lumière.
Rand voulut se défendre, mais il y renonça. Le sous-officier avait été très clair.
Et vous? Les capes blanches se vengeront, même si nous ne sommes plus là.
Ne t'en fais pas pour ça. La garde royale assure le maintien de l'ordre, même si elle est trop clémente avec les fichus porteurs de blanc. La nuit... Eh bien, Lamguin et ses camarades ne dormiront plus beaucoup. Mais je plains l'abruti qui voudrait venir peinturlurer ma porte.
Gilda apparut soudain, approcha, et salua son patron d'une révérence.
Maître Gil, il y a une dame dans la cuisine. Elle a demandé Maître Rand et Maître Matt. Par leur nom, vous comprenez ?
Rand et l'aubergiste échangèrent un regard perplexe.
Mon garçon,
dit Gil,
si Dame Elaine est ici pour toi, nous finirons sous la hache du bourreau, c'est couru d'avance.
Entendant mentionner la fille héritière, Gilda regarda Rand avec des yeux ronds comme des soucoupes.
Laisse-nous, ma fille. Et tiens ta langue au sujet de ce que tu as vu et entendu. Ça ne regarde personne.
Gilda salua et détala en jetant sans cesse des regards à Rand par-dessus son épaule.
Dans 5 minutes, elle dira aux autres filles que tu es un prince déguisé. Avant le coucher du soleil, la nouvelle cité tout entière sera au courant.
Maître Gil, je n'ai jamais parlé de Matt à Elaine. Ça ne peut donc pas être...
Il s'interrompit, eut un grand sourire, se détourna et courut vers la cuisine.
Attends !
Cria l'aubergiste dans son dos.
Ne te précipite pas sans savoir, espèce d'idiot !
Mais Rand ouvrait déjà la porte de la cuisine. Et ils étaient tous là. Impassible, Moiraine le regarda comme s'il s'était quitté la veille. Nineveh et Egwene, au contraire, coururent lui jeter les bras autour du cou. Perrine leur emboîta le pas, tous trois lui tapotant bientôt les épaules comme pour se convaincre qu'il était bien là en chair et en os. Dans l'encadrement de la porte de derrière, ouverte, l'âne surveillait la cour, sans se désintéresser totalement des retrouvailles qui battaient leur plein dans la cuisine. Rand essayant en même temps d'étreindre les deux femmes et de serrer la main à Perrine, la situation se compliqua, d'autant plus que la sage-dame tentait subrepticement de palper le front du jeune homme, histoire de voir s'il avait de la fièvre. Les amis d'enfance de Rand semblaient éprouvés, surtout Perrine, avec son visage tuméfié et une tendance à baisser les yeux qui ne lui ressemblait pas. Mais ils avaient survécu, et cela seul comptait.
« J'avais peur de ne plus vous revoir !»
croassa Rand.
« Je craignais que... »« Je savais que tu étais vivant !»
murmura Egwene, serrée contre le jeune homme.
« J'en ai jamais douté. Moi, j'ai connu la certitude. »
avoua Nineveh. D'un ton un peu dur, mais elle sourit et ajouta, plus amicalement.
« Tu as l'air en forme, Rand. Un peu sous-alimenté, mais bien dans ta peau. Que la lumière en soit remerciée. »
Bon,
fit Maître Gil dans le dos de son protégé.
On dirait que tu connais ces gens. Les amis que tu cherchais?
Oui, ce sont eux.
Rand fit les présentations, trouvant bizarre de donner le vrai nom de Moiraine et de l'âne, qui le foudroyèrent d'ailleurs du regard. L'aubergiste salua tout le monde avec sa cordialité coutumière, mais il semblait impressionné d'être en présence d'un champion, sans parler de Moiraine, qu'il regardait avec des yeux ronds. Savoir qu'une Aes Sedai avait aidé les garçons était une chose. De là à la recevoir dans sa cuisine.
« Bienvenue à la bénédiction de la reine, »
dit-il en s'inclinant bien bas.
« Vous êtes ici chez vous, même si je suppose que vous séjournerez au palais avec Elaïda et les autres Aes Sedai venus pour surveiller le faux dragon. »
S'inclinant de nouveau, Gil jeta un coup d'œil inquiet à Rand. Oui, il était prêt à ne pas médire des Aes Sedai, mais en avoir une sous son toit. Le jeune berger sourit, une façon de signaler que tout allait bien. Moiraine n'avait aucun rapport avec Elaïda, dont chaque mot et chaque geste dissimulaient une menace.
Tu en es sûr? Même en cet instant, tu le jurerais?
Durant mon très court séjour à Kemlin,
dit Moiraine,
j'ai l'intention de rester ici. Et en payant, comme tout le monde.
Un chat tacheté déboula du couloir pour venir se frotter aux jambes de Maître Gil. Un autre chat, gris à long poil celui-ci, jaillit de dessous la table, se hérissa en crachant de fureur, et battit en retraite lorsque son adversaire fit mine de lui sauter dessus. Passant entre les jambes de l'âne, il détala dans la cour. Maître Gil s'excusa de ce débordement félin, puis il assura que Moiraine lui ferait un grand honneur en étant son invité. Mais ne préférerait-elle pas quand même le palais? Sinon, eh bien, il se ferait un plaisir de lui offrir sa meilleure chambre. Sans prêter attention à son babil, Moiraine se pencha pour caresser le chat blanc et roux qui abandonna sans la moindre vergogne le pauvre aubergiste.
« J'ai vu quatre autres chats, »
dit-elle.
« Vous avez des problèmes de souris ? De rats, peut-être ?»«
Les rats, Moiraine Sedai, sont ma hantise. J'entretiens bien mon auberge, mais avec tous ces visiteurs, les rongeurs sont attirés par la foule. Heureusement, mes braves chats veillent au grain. Vous ne serez pas dérangés. »
Rand croisa le regard de Perrine, qui baissa aussitôt la tête. Les yeux de l'apprenti forgeron étaient bizarres. Et ce mutisme total. Perrine n'avait jamais été un grand bavard, mais quand même.
C'est sans doute parce que la ville est pleine,
dit Rand, venant au secours de Gil.
Avec votre permission, Maître Gil,
dit Moiraine.
Tenir les rats éloignés de cette rue est un jeu d'enfant. Et avec un peu de chance, ces rongeurs ne s'apercevront même pas de ce qui se passe.
Hésitant, Maître Gil finit par accepter la proposition. De toute façon, il n'avait pas le choix, car la demande de permission était une pure précaution oratoire.
Si vous êtes sûr de ne pas préférer le palais, Moiraine Sedai.
Où est Matt?
Demanda Nineveh.
Elle affirme qu'il est ici, comme toi, Rand.
À l'étage. Il ne se sent pas bien.
Quoi? Il est malade? Eh bien, pendant qu'elle s'occupe des rats, je vais me charger de lui. Conduis-moi, Rand. Vous montez tous,
dit Moiraine.
Je vous rejoindrai dans quelques minutes. Nous envahissons la cuisine de Maître Gil, et un peu d'intimité ne nous fera pas de mal.
Le message était clair. La traque continue, et il faut toujours nous cacher.
Venez,
dit Rand.
Nous allons passer par l'escalier de service.
Les jeunes gens et la sage dame sortirent, laissant Moiraine et l'âne avec l'aubergiste. Rand jubilait. Ses retrouvailles le réjouissaient tant qu'il avait l'impression d'être rentré chez lui. Les autres partageaient son étrange euphorie. Riant ensemble, ils ne cessaient pas de tendre la main pour toucher le bras ou l'épaule de leur ami. La tête toujours baissée, Perrine parla pour la première fois depuis qu'ils étaient de nouveau ensemble.
« Moiraine était sûr de vous retrouver, »
dit-il d'un ton un peu trop morne, même pour lui.
Et elle ne mentait pas. Quand nous sommes arrivés en ville,
et Gwen, Ninevé et moi, nous ne pouvions pas nous empêcher de regarder partout. »
Il secoua la tête, faisant onduler ses cheveux bouclés.
« Les bâtiments, les gens, tout. Cette ville est si grande. » Des passants nous regardaient aussi, criant « rouge ou blanc » sur notre passage. Quelle question idiote!
Et Gwen tapota du bout d'un index l'épée enveloppée de rouge du jeune berger.
« Qu'est-ce que ça veut dire ?»«
Rien d'important. De toute façon, nous allons partir pour Tarvalon. »
Et Gwen eut un regard surpris, mais elle n'insista pas et reprit le récit là où Perrine l'avait laissé.
Moi, Rain ne regardait rien. Comme l'âne. Elle nous a baladés dans les rues, comme un chien qui suit une piste. Au bout d'un moment, j'ai pensé que vous n'étiez pas là. Mais elle a soudain bifurqué dans une rue. Ensuite, nous sommes entrés dans l'auberge, nous avons confié les chevaux au palefrenier et nous avons directement gagné la cuisine. Moi, Rain a simplement dit à une fille d'aller prévenir Randall Thor et Matt Cotton qu'on les demandait. Une minute après, tu as déboulé comme une balle qui apparaît par miracle dans la main d'un trouvert.
« Au fait, où est le trouvert ?»
demanda Perrine.
« Ici, avec vous ?»
Rand eut la gorge nouée, sa jubilation étouffée dans l'œuf.
« Tom est mort. Enfin, je crois. Il y avait un blafard et... »
Il ne put en dire plus. Ninevé marmonna quelques mots inintelligibles. Dans un silence pesant, leur joie irrémédiablement gâchée, les quatre jeunes gens atteignirent le palier.
« Matt n'est pas vraiment malade, » dit Rand. « Il... Mais vous verrez bien. »
Il ouvrit la porte de la chambre.
« Matt, j'ai une surprise pour toi. »
Toujours roulé en boule sur son lit, comme lorsque Rand l'avait laissé, Matt daigna quand même relever la tête.
Comment sais-tu que ce sont vraiment eux ?
Croassa-t-il. La peau très rouge et très tendue, il ruisselait de sueur.
Qui me dit que tu es toi-même, d'ailleurs ?
Pas malade ?
Siffla Ninevé avant d'avancer dans la chambre, enlevant déjà sa sacoche de son épaule.
Tout le monde change,
dit Matt.
Comment être sûr ? Perrine, c'est bien toi ? Tu as changé, n'est-ce pas ?
Oui, oui,
tu as changé.
À la grande surprise de Rand, Perrine se laissa tomber sur l'autre lit et se prit la tête à deux mains. Le rire de dément de Matt sembla lui percer les tympans. Ninevé s'accroupit près du lit de Matt. Relevant le foulard, elle toucha le front du jeune homme qui se dégagea vivement.
Tu es brûlant de fièvre. Mais avec une telle température, tu ne devrais pas transpirer. Rand, Perrine, allez chercher des morceaux de tissu propre et autant d'eau fraîche que vous pourrez en trouver. Pour commencer, Matt, je vais faire baisser la fièvre et...
La jolie Ninevé,
lança Matt.
Mais une sage dame n'a pas droit à une vie de femme, pas vrai? Et surtout pas de belle femme. Pourtant, tu ne peux pas oublier ce que tu es et ça t'effraie, n'est-ce pas? Tout le monde change.
Ninevé blêmit. De colère ou d'angoisse, Rand n'aurait su le dire. Le regard hanté de Matt se posa sur Egwene.
« La jolie Egwene »
lança-t-il.
« Aussi jolie que Ninevé. Mais vous avez d'autres points communs désormais. Vous partagez des rêves. Dites-moi un peu à quoi ils ressemblent. »
Nous sommes à l'abri des espions du ténébreux.
Annonça Moiraine en entrant dans la chambre, l'âne sur les talons. Son regard se posant sur Matt, elle cria comme si elle s'était brûlée au contact d'un objet très chaud.
Tous, écartez-vous de lui! Vite!
Bien entendu, Ninevé n'obéit pas. En revanche, elle se retourna et dévisagea la Aes Sedai sans dissimuler sa surprise. En deux enjambées, Moiraine fut sur elle, la prit par les épaules et la tira loin du lit, comme un vulgaire sac de pommes de terre. La sage dame se débattit, mais elle n'était pas de taille, surtout dans sa position accroupie. Quand Moiraine la lâcha, elle se releva en éructant de rage. À la façon dont elle tirait sur ses vêtements pour les défroisser, elle risquait fort de les déchirer. Mais son courroux n'intéressa pas la Aes Sedai, qui se concentrait sur Matt, le surveillant comme s'il s'était agi d'une vipère prête à frapper.
« Vous restez tous loin de lui !»
répéta-t-elle.
« Et vous ne bronchez pas !»
Matt soutenait le regard de Moiraine. Même s'il se roula davantage en boule sur le lit, il eut un rictus haineux, et ses yeux ne quittèrent pas un instant ceux de la Aes Sedai. Très lentement, celle-ci avança, tendit un bras et posa la main sur un genou de Matt. À ce contact, le garçon eut un spasme, comme s'il était pris de nausée. Sans crier gare, il sortit une main de sous son ventre et tenta de frapper Moiraine avec la dague ornée d'un rubis. Sans que nul l'ait vu bouger, l'âne fut soudain à côté du lit. Saisissant au vol le poignet de Matt, il l'immobilisa à mi-course, comme si la dague venait de heurter un mur de pierre. Toujours en position fœtale, Matt essaya quand même de dégager son bras, mais la prise du champion était bien trop puissante. Durant ce combat silencieux, les yeux haineux de Matt restèrent rivés sur la Aes Sedai. Moiraine n'avait pas bronché, même quand la pointe de la dague s'était arrêtée à un pouce de son visage.
Comment a-t-il eu cette arme ?
Lâcha-t-elle d'un ton glacial.
J'ai demandé si Mordette vous avait donné quelque chose. Je vous ai prévenu que c'était dangereux, et vous m'avez menti.
Non,
se défendit Rand.
Mordette n'a rien donné à Matt. Il a pris la dague dans la salle du trésor.
Sous le regard de la Aes Sedai, Rand fit d'instinct un pas en arrière. Par bonheur, elle se retourna tout de suite vers le lit.
Avant que nous soyons séparés, je ne savais rien.
Ajouta le jeune berger.
Tu ne savais pas.
Moiraine examina de nouveau Matt, qui essayait encore de dégager son bras armé.
Avec cette horreur, c'est un miracle que vous soyez arrivé jusqu'ici. Dès que j'ai posé les yeux sur Matt, j'ai senti le contact maléfique de Machadar. Un blafard, lui, le capterait à des lieux à la ronde. Sans savoir exactement où aller, il comprendrait que sa cible n'est pas loin. Et Machadar attirerait son esprit, tandis que son mort se souviendrait que le même démon a jadis englouti toute une armée. Des seigneurs de la terreur, des Myrdraal et des Trollocs. Certains suppôts auraient les mêmes perceptions, ceux qui ont pour de bon renoncé à leur âme. Sans vraiment bien comprendre pourquoi, ils auraient l'impression que l'air irrite leur peau, ou une autre manifestation de ce type. L'arme les obligerait à partir à sa recherche. En un sens, elle aurait sur eux la même influence qu'un aimant sur un morceau de fer.
Nous avons croisé des suppôts,
dit Rand.
Et même assez souvent. Mais nous avons toujours réussi à leur échapper. La nuit précédant notre arrivée ici, nous avons même vu un blafard. Mais il ne s'est pas aperçu qu'on l'épiait. On raconte que d'étranges créatures rôdent dans la nuit, tout autour de la ville. Selon moi, ça pourrait être des Trollocs.
C'est exactement ça, jeune berger, dit l'âne. Et là où rôdent des Trollocs, les blafards ne sont jamais loin.
Sur le dos de sa main, les veines et les tendons saillaient, montrant que maîtriser un forcené n'était pas un jeu d'enfant. Mais sa voix ne tremblait pas.
Ils ont tenté de brouiller leurs pistes, mais il y a deux jours j'ai vu des signes qui ne trompent pas. Pas mal de fermiers et de villageois se plaignent d'attaques nocturnes. En venant, j'ai entendu beaucoup de gens parler des monstres qui rôdent après le coucher du soleil. Les Trollocs ont réussi à frapper ton village de nuit, comme s'ils étaient invisibles. Mais les monstres approchent chaque jour un peu plus des zones où nous pouvons envoyer des soldats les intercepter. Même ainsi, ils ne sont pas prêts de s'arrêter.
Mais nous sommes à Kaemlyn,
rappela Egwene.
Ils ne peuvent pas nous atteindre tant que...
Ils ne peuvent pas,
répéta l'âne, coupant la parole à la jeune fille.
Dans la campagne environnante, les blafards regroupent leurs forces. Si on sait où regarder, il y a des signes partout. Actuellement, il y a autour de Kemlin plus de trollocs qu'il en faut pour surveiller les différentes sorties d'une ville. J'estime que nous sommes confrontés à une dizaine de points trollocs. Il ne peut y avoir qu'une raison à cela. Dès qu'ils se sentiront assez forts, les Myrdraal viendront vous chercher en ville, toi et tes deux amis. Cette provocation risque d'inciter la moitié des armées du Sud à gagner les terres frontalières. Mais nos ennemis sont prêts à courir ce risque. Voilà trop longtemps que vous leur glissez entre les doigts. Berger, on dirait bien que Kemlin, à cause de toi, va connaître de nouvelles guerres des Trollocs. Egwene en gémit d'horreur, et Perrine secoua la tête, comme s'il voulait nier la réalité. À l'idée que des Trollocs arpentent les rues de Kemlin, Rand eut la nausée. Tous ces gens qui s'affrontaient sans savoir que la véritable menace restait à venir. Que feraient les Rouges et les Blancs le jour où les Myrdraal et les Trollocs entreraient en ville et commenceraient à les massacrer? Il eut une image des tours en flammes, du feu qui dévastait les dômes, de Trollocs se déversant dans les rues de la nouvelle cité, puis se ruant à la conquête du palais. Elaine, Gawain, Morgaz, tous morts.
Nous n'en sommes pas encore là,
dit soudain Moiraine d'un ton distrait.
Si nous parvenons à quitter Kemlin, les Myrdraal n'auront plus le moindre intérêt pour la cité. Mais tout repose sur des si. Et ça n'est pas facile quand il y en a tant.
Ce serait plus facile si nous étions tous les trois morts,
souffla Perrine. Rand sursauta, surpris d'entendre l'écho de ses propres pensées sortir de la bouche de son ami. Toujours assis, la tête baissée, il continua d'un ton amer.
Partout nous allons, le malheur et la souffrance nous suivent comme notre ombre. Si nous étions morts, ce serait mieux pour tout le monde.
Furieuse et morte d'angoisse, Nineveh se tourna vers le jeune homme, mais Moiraine prit la parole avant elle.
Que gagneriez-vous à être mort ?
Demanda-t-elle.
Et quel bénéfice pour les autres ? Si le seigneur du tombeau a regagné assez de liberté pour influer sur la trame, il lui sera encore plus facile de vous mettre la main dessus si vous mourrez. Une fois dans l'autre monde, vous n'aiderez plus personne. Ni vos amis, ni votre famille, ni tous ceux qui ont pris des risques pour vous. Les ténèbres s'abattent sur le monde, et vous ne pourrez pas les combattre si vous cessez de vivre.
Perrine leva la tête vers les Sedai. Rand vit alors que les yeux du jeune forgeron étaient presque entièrement jaunes. Avec ses cheveux en bataille et son regard de fauve, il faisait penser à... Non. Impossible de trouver l'image adéquate, même s'il l'avait sur le bout de... l'esprit.
Nous n'y arrivons pas non plus vivants,
dit Perrine, sans crier, mais d'un ton catégorique qui donna encore plus de poids à ses propos.
Nous en parlerons plus tard,
fit Moiraine.
Pour l'instant, la priorité, c'est Matt.
Elle s'écarta pour que tout le monde puisse voir le jeune homme. Le regard toujours aussi haineux, il n'avait pas changé de position et de la sueur ruisselait encore sur son front. Les lèvres tordues par un rictus, il luttait toujours pour frapper Moiraine avec sa dague.
Mais vous avez peut-être oublié ce détail,
reprit Moiraine. Penaud, Perrine haussa vaguement les épaules.
Qu'est-ce qui ne va pas chez lui?
Demanda Egwene.
Est-il contagieux?
Enchaîna Nineveh.
Si c'est le cas, ça ne me gêne pas, parce que je suis immunisé contre la plupart des maladies. Il est très contagieux,
répondit Moiraine.
Et ta défense naturelle ne te sauverait pas.
Elle désigna la dague dont la pointe tremblait, tant Matt luttait pour la lui planter dans la chair.
Cette arme vient de Shadar Logoth. Une ville où il est dangereux de ramasser un caillou, si on a l'intention d'en sortir avec. Et cette dague est bien plus redoutable qu'une pierre. Le démon qui a tué la cité est à l'intérieur, et il habite aussi l'esprit de Matt. La haine et le soupçon rongent votre ami, qui ne sait plus à qui se fier. Bientôt,
il ne lui restera plus que l'envie de tuer, puisque tout être humain sera à ses yeux un ennemi. En emportant la dague, Matt a déchaîné les forces qui étaient tapies dedans et qui la lient à tout jamais à ce lieu maléfique. Pendant longtemps, la souillure de Machadar et sa vraie personnalité se sont livrés un combat sans pitié. Aujourd'hui, la lutte est presque terminée, et Matt est au bord de la défaite. S'il n'est pas terrassé par le mal, il lui permettra de se propager partout où il ira. Une simple écorchure de cette lame suffit à tuer. Bientôt, Matt lui-même sera au moins aussi dangereux pour ceux qui entreront en contact avec lui.
« Tu peux le sauver ?»
demanda Nineveh.
« J'espère. Pour le salut du monde, je prie pour qu'il ne soit pas trop tard. »
Elle sortit de sa bourse l'angréal enveloppée de soie.
« Laissez-moi avec lui. Restez ensemble dans un lieu secret, mais sortez de cette chambre. Je vais tenter l'impossible pour le tirer de là. »